Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
Je reçois ce soir Michel Simon, un des animateurs historiques de la revue Positif, un écrivain et un intervenant bien connu de tous les auditeurs de France Culture. Michel Simon, on peut se demander pourquoi je vais me tourner vers vous. Mais je me tourne vers vous comme non seulement comme un gourou, si j'ose dire, mais comme quelqu'un qui va nous éclairer sur quelque chose de fondamental, qui est que notre rapport à la guerre dépend, a changé avec les modes de représentation visuelle de la guerre. Alors au départ, il y a eu la peinture d'histoire, elle est mythologique, elle est panoramique, elle est en plan large, le chef de guerre sur son cheval blanc au milieu, chacun connaît cela, héroïsation. Ensuite, la photo, plan serré, apparition des victimes, on fait le détail. Et quand on fait le détail, on sort un peu de l'épopée. Disons que l'héroïsme en prend un coup, c'est un peu déprimant. Et puis le cinéma. Alors, qui bouleverse tout ? Le cinéma, pour lequel la guerre est à la fois, un peu un acte de naissance, on pense à Griffith, et puis qui culmine, disons, pour aller vite, dans les sentiers de la gloire de Kubrick. Alors, j'aimerais que vous nous restituiez un peu cette liaison, cette attraction originelle, persistante du cinéma pour la guerre.
Oui, alors ça commence dès 1896, un an après, puisque les Frères Lumière filment les dragons allemands sautant les haies et la charge des lanciers australiens. Deux films, donc, du tout début du cinéma. Donc la guerre, l'armée est déjà présente. Mais je pense que tout simplement, comme disait Samuel Fuller, personnage de Pierrot le Fou, il intervenait dans le film, il disait, le cinéma c'est action, action, action. C'est-à-dire, évidemment, depuis Aristote, le conflit fait partie de l'art dramatique, et il est évident que la guerre c'est le conflit par excellence, et donc ça a toujours fasciné les spectateurs et fasciné les metteurs en scène. Donc le thème de la guerre va être présent pratiquement dans toute l'histoire du cinéma, et de façon, je dirais, presque exemplaire dans le cinéma américain.
Vous le liez avec le western, la guerre, il y a un rapport avec vous, guerre contre l'Indien, western, frontière.
Bien sûr, mais sauf que effectivement le cinéma hollywoodien est divisé en genres et que on a séparé le genre du western du genre du film de guerre, mais on pourrait dire que beaucoup de westerns appartiennent aux films de guerre. Mm-hmm. De même que il y a beaucoup de films qui sont appelés des films de guerre, par exemple Le Retour des combattants, Les séquelles de la guerre, etc., qui sont en fait des mélodrames, etc., et pas du tout des films sur le conflit. Donc tout ça, ce sont des lignes de séparation. D'accord. Qui sont extrêmement artificielles. Le western, certes, la guerre de sécession, par exemple, il y a beaucoup de westerns qui se passent pendant la guerre de sécession, beaucoup de westerns qui se passent dans la conquête contre les Indiens, et vous avez raison de dire que d'une certaine façon, ce sont des films de guerre, puisqu'on y retrouve tous les topos du film de guerre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et je voudrais commencer par une anecdote, parce que finalement, il y a deux extrêmes dans la représentation de la guerre au cinéma. Il y a d'une part la stratégie, c'est-à-dire la connaissance vraiment des stratégies des chefs militaires et comment ils conçoivent. Et il faut dire que c'est très difficile à montrer au cinéma. Et puis alors, à l'infiniment petit, qui est exactement à l'opposé du spectre, il y a le combattant qui crapahute dans les tranchées, qui crapahute pour essayer d'atteindre une colline, de prendre une colline à l'ennemi, qui est le sujet d'énormément de films sur des patrouilles perdues, voilà. Le premier exemple, c'est ma première conversation avec Stanley Kubrick, parce que je l'avais appelé au téléphone en 1969, et puis on parlait de ses projets, ou plus c'est même lui qui m'en parlait, il dit « moi je prépare Napoléon ». Je lui avais dit, avec une sorte de naïveté de cinéphile de 29 ans, 30 ans, encore naïf, ma réponse a été spontanée. Je lui ai dit, mais il y a eu tellement de films sur Napoléon, pourquoi en faire un de plus ? Qu'est-ce que vous avez ? Il dit, mais vous en avez vu un seul de bon ? Et j'étais un peu pétrifié devant Kubrick qui me dit ça. J'ai répondu, comme tout lecteur et spectateur d'histoire du cinéma, Napoléon d'Abelgance, évidemment. Mmh. Il me dit, ah oui, ah vous, oui. Il dit non, mais il me dit, Napoléon d'Abelgance, c'est un film brillant au point de vue du triple écran, le ballon captif, les tempêtes de neige, les bagarres de boules de neige. C'est techniquement éblouissant pour l'époque. Mais d'accord, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous avez compris, en voyant Napoléon d'Abelgance, pourquoi c'est le plus grand stratège de l'histoire de l'armée depuis Jules César? C'est le plus grand stratège. Eh bien, je lui ai dit non, parce qu'incontestablement, dans le film d'Abelgance, on voit des très belles images, mais on comprend rien à la façon dont il a gagné les différentes batailles de Wagram.
Oui,
etc.
Mais Abelgance fait rêver.
Oui.
Alors mais... là, parce que vous me parlez, Michel Simon, de stratégie. C'est une affaire d'intelligence, la stratégie. Ça peut se traiter plutôt par des livres, une conférence. La souffrance du combattant, vous en parliez, c'est une affaire. Oui, c'est une affaire de souffrance. Mais il y a l'imaginaire. Et l'imaginaire héroïque, héroïsant, exaltant. Moi, je vais vous faire une confidence. Pour Qui sonne le glas est peut-être un mauvais film, je vous le concède. Je ne sais même plus de qui c'est. C'est simplement qu'il y avait Gary Cooper et Ingrid Bergman. Pour moi, j'avais 15 ans, 16 ans, la guerre d'Espagne, je me suis dit, mais il faut en être. Il faut en être de la guerre d'Espagne. Où sont-elles? Elles sont en Amérique latine. Soyons le Gary Cooper quelque part. C'est naïf, si vous voulez. Mais je veux dire, vous reconnaissez que là, qu'il y a eu tout de même, dans le cinéma, au départ, une exaltation, alors patriotique, souvent, du sacrifice, de l'Odyssée, vous avez ressenti vous-même cette fascination à travers un film ou des films pour l'acte guerrier?
Je pense qu'on ne l'évite pas. C'est un peu la contradiction du film pacifiste ou du film contre la guerre.
C'est oui, que, qui est plus ennuyeux, généralement.
C'est que la guerre est fascinante. Et d'ailleurs, ouais. Encore une fois, Kubrick approuvait cette notion. Mais en même temps, il fallait... je pense pas que Les Sentiers de la Gloire soient un film... contre la guerre, c'est un film contre la pratique de la guerre, c'est un film contre la guerre de classe à l'intérieur de l'armée, c'est un film contre la corruption, c'est un film contre l'ambition humaine, envoyer des hommes au carnage pour être promu. Il n'y a pas, et d'ailleurs c'est symptomatique que Kubrick n'a jamais fait de film sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale c'est tout de même le problème qui se pose à tous les pacifistes. Fallait-il se coucher devant Hitler par pacifisme, comme Giono ou Romain Rolland nous y encourageaient, ou fallait-il collaborer avec Hitler comme Brasillac et Drieux-La Rochelle le disaient, ou fallait-il faire de la résistance et se battre? Eh bien, il faut dire que c'est une guerre. Il y a des guerres inutiles. Bien sûr, il y en a beaucoup. Mais la guerre de 40 n'était pas une guerre inutile, c'est une guerre sur des valeurs, de civilisation. Et donc, quand Churchill s'oppose seul à Hitler, il sauve l'Europe. Et donc, on ne peut pas être pacifiste à 100%. Et ça, c'est toujours le vrai problème.
On l'a été avec Jean Renoir et La Grande Illusion. C'était, avouez que c'était pas une bonne préparation du soldat. La grande Illusion, c'était plutôt bon. On est copains.
C'est la camaraderie.
C'est les films la sur la camaraderie, etc. Mais vous remarquez que Michel Jean, la preuve de la fascination exercée par le film de guerre, c'est qu'ils sont souvent censurés. Vous avez parlé du Kubrick tout à l'heure.
Les Sentiers de la Gloire.
Les Sentiers de la Gloire, ça a été censuré.
En fait, c'est plus compliqué, mais techniquement, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes associés qui avaient produit le film ne voulaient pas avoir des ennuis avec le fisc français, ne voulaient pas avoir des ennuis avec la censure, donc ils ne l'ont pas présenté. On leur a conseillé, ne le présentez pas. Et donc, ils ne l'ont pas présenté. Donc, le film, d'un point de vue strictement formel, n'a pas été censuré. Mais en fait, c'était effectivement une vraie censure.
Le Petit Soldat de Godard l'a été.
Absolument, parce que le Petit Soldat, parce qu'il évoquait la torture, mais il évoquait la torture du côté des Algériens, ce qui était quand même assez vicieux, puisque toute la France de gauche se protestait contre la pratique de la torture par l'OAS. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire que Godard montrait que les Algériens torturaient un homme d'extrême droite.
Oui. En tout cas, le cinéma modèle notre façon d'envisager la guerre, mais il est également modelé par la façon dont une société envisage la guerre. Vous parlez là, nous parlons du petit soldat Jean-Luc Godard. J'ai l'impression que au début de l'histoire du cinéma, la guerre est quelque chose de bien, et qu'à la fin, la guerre est quelque chose d'absurde. Enfin, c'est un peu le sentiment que la Nouvelle Vague donne, quelque chose de gênant, d'absurde. Autrement dit, on a l'impression que le cinéma français, en tout cas, a suivi, disons, l'évolution des sensibilités collectives, qui est au fond un refus du collectif, un refus de l'épique, un refus de l'héroïque, bref, un refus du sacrifice. Là, on sent qu'il y a une prise de distance. Elle n'a pas lieu partout, d'ailleurs, cette prise de distance, je crois, entre l'individu et la guerre.
Non, mais c'est l'approche de la guerre est différente suivant les périodes. Par exemple, pendant la guerre de 14, qui est le premier grand conflit du XXe siècle, on ne pouvait pas représenter. D'abord, les films américains n'arrivaient pas en France. Déjà, il y avait des conflits, etc. Mais surtout, il était impossible de montrer la réalité de la guerre parce qu'il fallait un effort collectif pour aller au combat, etc. Si on avait montré ce qui se passait vraiment sur les champs de bataille, ça aurait été démoralisant pour la nation. Donc on n'a pas du tout parlé vraiment de la guerre pendant la guerre de 14. Il n'y a pas eu de film, il y a eu quelques actualités cinématographiques, mais qui évitaient de montrer les horreurs, les véritables horreurs. Par contre, après, il y a un grand cycle de films dans les années 20 et puis 30, et ça atteint la grande illusion en boucle finale. C'est par exemple Les Croix de Broye après Roland d'Orgelès, c'est Verdun, Vision d'Histoire de Léon Poirier. Il y a une série de films français, et puis il y a en Amérique, à l'Ouest, Rien de Nouveau de Lewis Milestone, qui sont des films qu'on pourrait dire pacifistes, qui là peuvent montrer les horreurs des tranchées, etc., parce que c'est passé, il n'y a plus de mobilisation générale, il ne faut pas tous tendre vers la lutte contre l'ennemi, mais par contre, que ça ne se reproduise plus, donc il y a une série de films de ce genre. Ce qui est complètement différent avec la Deuxième Guerre mondiale, je parle de l'Amérique, puisqu'en France, il n'était pas question de tourner des films face aux Allemands, etc., mais en Amérique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre va devenir une affaire d'État. C'est-à-dire il y a des rapports extrêmement étroits entre Washington, le département d'État et Hollywood.
On peut parler de propagande ?
Absolument. Et là qui gomme complètement aussi la réalité de la guerre. Il y a très peu de films. Il y en a eu des centaines de films produits entre 1939 et 1947, 48, même juste après la fin du conflit. Ce sont des films, effectivement, de propagande, qui montrent la vie essentiellement donc du soldat, mais où on gomme là aussi les atrocités. Il y a très peu de films. Il y en a quelques-uns, et en particulier des documentaires. Par exemple, John Huston a fait deux magnifiques documentaires absolument extraordinaires qui s'appellent La bataille de San Pietro, où il a suivi presque caméra à l'épaule les combattants qui montaient une colline en Italie pour vaincre les armées fascistes. Ça, c'est un document magnifique. Et puis, Let There Be Light, c'est-à-dire Que la lumière soit, qui est un film sur les gens traumatisés, qui a été commandé par le ministère de la guerre et qui, sur les soldats américains traumatisés par les combats et qui perdent la raison, etc., qui sont soignés dans des asiles psychiatriques, film totalement interdit pendant 30 ans par les commanditaires du film, parce qu'il montrait justement l'horreur des conséquences de la guerre. Et puis, il y a aussi quelques films faits par des grands metteurs en scène. Par exemple, un film de John Ford qui est très peu connu, qui s'appelle Les Sacrifiés, They Were Expendable, ils étaient sacrifiés, qui est sur, il n'y a pas de musique. C'est un film presque, je dirais presque documentaire, sauf qu'il y a John Wayne, mais c'est sur une patrouille, et c'est un film assez remarquable du point de vue du réalisme, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a aussi The Story of G.I. Joe, qui est l'histoire d'un correspondant de guerre, qui montre effectivement la guerre dans le Pacifique, parce qu'il y a des films sur le front européen et des films sur le front asiatique. Et puis, il y a également un troisième film qui est le film de Raoul Walsh, Aventure en Birmanie, avec Errol Flynn, qui est plus romanesque, qui est plus trafiqué, mais qui est néanmoins un film impressionnant. Mais la plupart des films américains que l'on a fait pendant la guerre, je dirais pas que c'est une partie de plaisir, mais on obéit tout de même au spectacle, il y a beaucoup d'explosions, on est héroïque, on se bat bien, mais ça montre pas du tout comme certains films japonais, par exemple, comme Les Feux dans la Plaine, qui est un film terrifiant avec de l'anthropophagie, qui sont vraiment des films d'une cruauté totale que jamais le Hollywood n'a osé.
Mais on a l'impression, Michel Simon, que les Américains ne craignent pas de faire des films de guerre, tandis que les Européens sont plus réticents. Disons que les Américains, par exemple, la guerre du Vietnam a eu lieu, les prises de vue, les reportages télévisés ont été terribles, et puis on revient sur la guerre du Vietnam, et on n'est pas revenu sur la guerre d'Algérie, nous, ou très peu, ou avec embarras. Autrement dit, on se prend à penser que, disons, la civilisation américaine est plus jeune, donc un peu plus combative, estime de soi, fierté, la civilisation européenne un peu plus sceptique, recroquevillée, craignant un peu l'affrontement. C'est vrai que le cinéma est à la fois, je dirais, ce qui nous imprime et ce qui est aussi imprimé par l'époque. Et les Américains continuent de faire la guerre un peu partout. Et donc, je les trouve plus à l'aise sur le sujet que les Européens. Est-ce que je me trompe ?
Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que simplement, l'Italie et les États-Unis ont cela en commun, c'est que ce sont des nations nouvelles. L'Italie, ça date de 150 ans. L'Amérique, ça date un peu plus de 200 ans. Ce sont donc des gens qui sont encore à s'interroger sur leur identité. Je pense que la France et l'Angleterre, ce sont des pays qui existent depuis 1000 ans ou plus de 1000 ans et qu'il y a moins cette interrogation identitaire qui se passe aux États-Unis. Et je pense qu'effectivement, la guerre du Vietnam, qui a été la première guerre perdue par les Américains, la première fois, il faut dire que les Américains, d'abord, n'ont jamais connu la guerre chez eux. C'est une donnée fondamentale. Ils n'ont jamais connu la guerre sur leur terre.
Donc, ils ont un rapport à la guerre comme un spectacle. Ça ne les concerne pas complètement,
mais en même temps, ils s'interrogent. Comme nous, la guerre d'Algérie, c'est une guerre coloniale de plus. Avant, c'était des conquêtes gagnantes. Là, c'est des conquêtes perdantes. C'est un maintien perdant. Mais la France est habituée à ses colonies, à ses conflits, etc. Tandis que l'Amérique, pour la première fois, elle perd une guerre. Elle perd une guerre. Bon, comme toutes les autres, elle se passe ailleurs, mais elle perd une guerre. Et donc, ils s'interrogent automatiquement. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment avons-nous pu bafouer nos valeurs morales, les valeurs des pères fondateurs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend les trois films sur le Vietnam, qui d'ailleurs, les films sur le Vietnam, il faut le reconnaître, en Amérique, ont été faits presque essentiellement après la fin du conflit. Mais si on prend les trois grands films presque canoniques de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire Apocalypse Now, The Deer Hunter, Le Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, et puis Full Metal Jacket de Kubrick, on se rend compte, je m'excuse de revenir sur un sujet favori, on se rend compte que le film de Kubrick est le seul qui procède à une sorte de distanciation par rapport au conflit. C'est-à-dire Apocalypse Now, c'est un opéra.
Oui.
C'est avec Wagnerien, il y a la musique de Wagner, il y a le goût du napalm, il y a une sorte... Alors évidemment, il dénonce le délire de ce général qui dit qu'il aime sentir l'odeur du napalm, etc. Mais il n'empêche que c'est vu comme un opéra. Et on ne voit pas la souffrance des gens qui peuvent être tués par ce napalm. On ne le montre pas. C'est un opéra lyrique, certes apocalyptique, c'est bien le titre du film. Quant à Un voyage au bout de l'enfer, c'est avant tout... D'abord, c'est une fiction complètement fabriquée par Cimino, de la roulette russe qui n'a jamais existé dans la guerre du Vietnam. C'est un film qui montre tout même l'ennemi vietnamien comme une bande de singes. Bon, c'est un très beau film par ailleurs, hein. Je n'essaie pas de diminuer l'importance, mais il faut voir que c'est un film patriotique puisque la moitié du film se passe dans la communauté qui, loin de regretter cette guerre, célèbre les combattants quand ils reviennent, etc., qui se sont battus contre l'ennemi jaune. Donc, mais Kubrick, lui, intervient avec sa lucidité et son pessimisme radical, avec Full Metal Jacket, qui montre la guerre comme elle est. C'est-à-dire, il va jusqu'à l'os. Il n'y a aucune façon, c'est peut-être un des très rares films où il n'y a aucune identification possible. Il n'y a aucun frisson guerrier qui parcourt. Il y a d'abord l'entraînement des Marines, qui est une mise en lobotomisation du soldat, qui est effrayante. Et tout ça pour rien, puisqu'ensuite, ils vont se faire décimer par une femme qui, suivant les théories de Hardray, de l'impératif territorial, qui défend son pays, qui défend son terrain et qui réussit à tuer toute une bande de militaires avant d'être assassinée. Eh bien, Kubrick, c'est la lucidité totale. Il n'y a aucun moyen d'exalter la guerre.
Vous avez évoqué Full Metal Jacket, alors écoutons.
Oh, Iron, get your hand down.
Step
Voilà. Merci pour ce passage qui nous rappelle que le militaire est rythmique. L'homme est un animal rythmique. Le militaire, on dit qu'il vocifère, mais il vocifère en rythme. Ce qui est très bon pour l'enthousiasme et la discipline. Mais pourquoi avez-vous choisi Full Metal Jacket ?
Parce que justement, bon, la grande thématique de Kubrick, c'est un freudien pur sang, pur jus. Il pense que l'être humain est à la fois capable des choses les plus intelligentes et aussi des plus horribles. Car l'être humain est une bête et aussi un grand esprit. Il peut être les deux. Et cette bête est toujours là. Elle ne reste à travers 2500 ans. Elle est toujours la même.
Il a parfaitement raison.
Et voilà. Et donc, il nous dit toujours, c'est toujours des films en forme d'avertissement, cautionary tales, disent les Anglais. C'est toujours nous dire, attention, la bête est tapie. Et qu'est-ce que fait ce sergent instructeur? Il réduit ses hommes à des bêtes. Il les lobotomise pour les rendre totalement, il faut évacuer toute pensée, tout sentiment, tout rien pour être effectivement, pour détruire l'adversaire et n'être plus qu'un chien aboyant. C'est ça qui est terrifiant dans cette séquence. Et c'est ce qui va se passer. Sauf que ça n'aura pas l'effet attendu puisque ils vont perdre cette guerre et tout cela n'aura servi à rien. Mais c'est ce qui est terrifiant effectivement dans cette façon de voir le monde, mais qui est en même temps lucide parce que c'est Docteur Folamour. Voilà, alors ça c'est un autre type de guerre, c'est la guerre nucléaire, bon, qui est peut-être la seule façon, l'humour, de ne pas fasciner. C'est par le biais la soupe au canard des Marx Brothers, Charlot Soldat ou le grand dictateur de Chaplin. Là, il peut pas y avoir d'identification. Peut-être que par l'humour et l'ironie, on arrive à ne pas identifier. Bien que Kubrick, à mon avis, dans Full Metal Jacket, a réussi à contourner l'obstacle de l'identification. Mais dans Docteur Folamour, on voit exactement ce qui se passe quand on a ce qui nous montre dans Docteur Folamour, c'est la même chose, c'est-à-dire que sous Périclès, si on voulait tuer l'adversaire, on prenait une fronde et on lui envoyait une pierre dans le cerveau. Voilà, ça faisait un mort. Aujourd'hui, 2500 ans plus tard, l'être humain n'est pas plus intelligent. Il a techniquement, il a inventé la pénicilline, il a fait des progrès immenses. Il a envoyé des avions dans le ciel, mais humainement, il est resté le même. Sauf que la différence, c'est qu'il y a le bouton atomique et que l'irresponsabilité d'un général grec, ça fait 3 morts, ou 20 morts, ou 50 morts, et là, c'est la planète qui saute. Ouais. Et c'est ça qui est terrifiant dans Docteur Folamour. Et en même temps, c'est un film sur les présidents des États-Unis, de l'URSS, les généraux, etc., sont réduits à un état infantile et bestial.
C'est vrai que la guerre nous ramène au paléolithique, et nous remet en contact, je dirais, avec les origines. Mais il m'est venu deux idées en vous écoutant. Elles sont très incorrectes. La première, c'est que la France, ayant l'habitude de perdre la guerre, elle a été beaucoup moins traumatisée par la défaite en Algérie que les Américains habitués à gagner la guerre l'ont été par le Vietnam. La défaite, ça fait réfléchir. Mais il me vient aussi cette idée que, au fond, vous avez parlé des films américains de mise à distance, comme Folamour, etc. Mais j'ai l'impression tout de même que on n'ose plus trop en Europe faire des films de guerre parce que les bonnes guerres sont tout de même patriotiques. Et les Américains restent patriotiques. Et donc, même s'ils peuvent parfois se tourner en dérision et interroger la guerre avec suspicion, il y a tout de même chez eux cette vibration patriotique qui prédispose tout de même à la guerre. Alors qu'en France, on n'a plus trop envie. Ou alors, on le fait sur le mode du remords, comme avec René, après la guerre d'Algérie, on le fait sur le mode ou alors de la ou de la dérision, de la frange dérision, comme avec Godard, le petit soldat. C'est étonnant comme, au fond, le film de guerre est un formidable révélateur civilisationnel, n'est-ce pas ? On peut pas parler des États-Unis sans parler du cinéma. Bien sûr, le cinéma américain, c'est une redondance, on en est d'accord, mais quand on voit un film de guerre américain, c'est l'Amérique elle-même qu'on voit, non?
Vous avez absolument raison, mais je reviendrai à nouveau à Kubrick, parce que le colonel Dax, Kirk Douglas, dans Les Sentiers de la Gloire, il cite Samuel Johnson, la fameuse phrase, le patriotisme, C'est le dernier refuge des gredins.
Oui.
Mais là, c'est là où Kubrick est un exilé, c'est un juif new-yorkais qui est distancié par rapport à son pays et qui critique en permanence le pays.
Il critique John Wayne.
Absolument.
Mais John Wayne, c'est tout de même plus l'Amérique que Kubrick.
Vous avez tout à fait raison, absolument. Même si Kubrick a eu un grand succès populaire. Mais j'aurais... vous avez raison de dire qu'il y a une liaison profonde entre... l'establishment politique, financier et Hollywood. Par exemple, j'ai une statistique qui m'a étonné. Il y avait 2400 projections par jour sur le front guerrier en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. 2400 projections pour les GIs qui regardaient ces films de guerre, parce que c'était que des films de guerre, pour leur remonter le moral et pour les encourager. Peut-être qu'il n'y avait pas que des films, peut-être des mélodrames aussi pour les faire pleurer. Mais en tout cas, comment le cinéma était une arme absolue pour dans la lutte contre l'ennemi. Ça faisait vraiment partie de... C'est pas du tout comparable avec la France. On n'imagine pas en Algérie 2400 projections.
Parce que la France est un pays littéraire et l'Amérique est un pays visuel. Si vous me permettez cette généralité un peu philosophique, c'est vrai que on a fait des magnifiques livres sur la guerre, mais quand il s'agit de représenter visuellement la guerre,
ça coûte plus cher aussi. Il faut dire que la guerre est coûteuse. Oui, elle est coûteuse
et
dans la guerre elle-même.
Et
elle est
le cinéma est une industrie et le film de guerre est une super industrie.
Mais moi, je voudrais revenir justement puisqu'on parlait des films pacifistes des années 20-30. Il y a trois films qui me paraissent passionnants qui sont faits en Europe contre non pas la guerre, mais contre le militarisme plutôt. Je dirais plutôt le militarisme.
Oui.
Et trois grands cinéastes, c'est d'une part, on reparle à nouveau des Sentiers de la Gloire, on parle de Des Hommes Contre de Francesco Rosi, et on parle de Pour l'Exemple de Joseph Losey, où on retrouve dans les trois films le même thème, c'est-à-dire les fusillades pour l'exemple. C'est-à-dire ce problème majeur, éthique, etc., des gens qui ont été envoyés au peloton d'exécution parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de leurs supérieurs qui leur demandaient des entreprises désespérées sans issue. Voilà. Ça, c'est, et dans chaque cas, il y a un personnage, Dirk Bogarde dans le film de Losey, John Maria Volonté dans le film de Rosi et Kirk Douglas dans le film de Kubrick, qui sont des leaders, mais qui sont des gens généreux, qui veulent défendre des valeurs morales contre une hiérarchie qui est au contraire impitoyable et qui se moque de la chair à canon, et puis des soldats qui vont mourir sous les balles des pelotons d'exécution. Et ce sont trois films, là aussi, on a dit que c'était des films pacifistes. Moi, je ne vois pas tellement ça. Je pense que ce sont des critiques du militarisme, ce sont des critiques de la façon dont la guerre est menée, parce que la guerre, pour eux, c'est la poursuite de la paix par d'autres moyens, mais c'est la lutte des classes qui se retrouve exactement au cœur de chacun de ces films. Et on voit... alors, est-ce que ces films sont encore valables aujourd'hui? Est-ce qu'ils nous disent encore quelque chose aujourd'hui? Je ne crois pas, même si ce sont de très grands films. Je ne crois pas parce que les conditions de la guerre aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la guerre des tranchées, avec la guerre avec les drones aujourd'hui, avec la guerre par ordinateur, etc. Ça n'a plus de rapport. Là, on avait vraiment... Le militaire en chef était en contact avec l'homme des tranchées. Il allait lui rendre visite, il l'encourageait. « Allez, mon brave, venez vous battre, etc. » Tout cela est complètement absent de la guerre en Syrie. Il n'y a plus de rapport entre la troupe et puis le haut commandement à Washington.
Oui, la guerre en Syrie, c'est un peu pour la télévision. La télévision fait du reportage, le cinéma fait de la fiction. Et aujourd'hui, on s'est déplacé, je dirais, vers la guerre des étoiles, Star Wars, qui essaye de se mettre à la hauteur des technologies, mais qui, par là même, déshumanise un peu la chose. Mais en vous écoutant, Michel Simon, je me rends compte à quel point la conscience morale aux États-Unis, disons la fonction de veilleur, c'est le cinéaste plus que l'écrivain, au fond. Chez nous, c'est tout de même dans le littéraire que ça se passe, n'est-ce pas? Pour parler de 14-18, on pense à Maurice Genevoix, si vous voulez. Pour parler de 39-45 à Romain Gary. Enfin, il y a vraiment deux univers. Et on ne peut pas interroger l'Amérique sans interroger son cinéma. Mais comment voyez-vous, curieusement, l'effet de la télévision sur la fiction cinématographique, c'est-à-dire le réalisme immédiat, la prise de vue directe, et puis la grande épopée. Est-ce que télévision et cinéma peuvent aller ensemble dans la description de la guerre?
Je pense que d'abord la télévision a un avantage, c'est qu'elle a un public tout de même plus captif qui est chez soi. Et par exemple, dans le domaine du documentaire, elle donne un écho beaucoup plus grand en nombre de spectateurs qu'un documentaire qui sort en France. Oui. Bon, on n'est plus à l'époque du Chagrin et la Pitié où il y avait des centaines de milliers de gens qui allaient au Saint-André-des-Arts voir le film de Marcel Ophuls.
Oui, la télévision, c'est la guerre à table, pour ainsi
voilà.
dire.
Voilà. Et tout de même, il y a des documentaires vraiment remarquables qui sont réalisés pour Arte ou pour d'autres chaînes et qui sont montrés à la télévision et qui touchent tout de même des millions de gens. Ça, c'est une grande différence avec le cinéma parce que aujourd'hui, le film documentaire a de très 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 rares exceptions. Bon, les films de Jacques Perrin sur les animaux, mais je veux dire les films documentaires d'enquête politique ou vraiment qui sur le racisme, sur la guerre, etc. En salle, ça a très très peu de spectateurs. Donc ça, c'est une première différence. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le petit écran, c'est pas pour rien qu'on l'appelle ainsi. C'est vrai que le grand écran, je veux dire Apocalypse Now, ça se voit sur un grand écran. Je veux dire, c'est évident parce que c'est la guerre. Effectivement, la guerre spectacle, c'est ce que Coppola a su très bien faire. Il y a une autre chose qui me fascine dans l'Amérique aussi, puisque vous évoquiez. D'abord, vous avez raison d'évoquer le fait que les écrivains en France, c'est eux qui ont une conscience beaucoup plus politique, etc. Mais vous avez cité les gens positifs dans cette affaire-là. Mais il y a aussi la façon dont les intellectuels français ont pu à l'extrême droite, défendre les nazis comme Brieux-La Rochelle, Brasillac et d'autres. Bon, et aussi à l'extrême gauche, des gens comme Sartre ou défendant la bande à Baader, ou bien Genet défendant les terrorismes de toutes sortes. Moi, je n'ai jamais vu un seul grand écrivain américain prendre position, par exemple, pour le terrorisme, prendre position pour le massacre, prendre position pour les nazis. Il n'y en a pas, pratiquement pas. Il y a Ezra Pound, mais il était toqué, je veux dire. Bon, mais c'est peut-être la seule exception. Ni les Fitzgerald, ni les Hemingway, ni les Faulkner, etc., ne sont engagés dans des combats de ce genre, exaltant finalement la force brutale, qu'elle soit révolutionnaire ou qu'elle soit fasciste. Ça n'a jamais été le cas. Donc là aussi, on pourrait dire peut-être que l'intellectuel français n'a pas été toujours ce qu'il aurait dû être.
Je voudrais donner une excuse à l'intellectuel français. C'est qu'il est passé par la résistance et les résistants étaient des terroristes.
Oui.
C'est-à-dire que il y a peut-être une ambiguïté du mot terrorisme.
Il s'attaquait pas à des innocents. Les résistants ne tuaient pas le citoyen français.
C'est la différence essentielle.
Oui, ils jetaient pas des bombes dans un autocar où il y avait des enfants.
Ce que les anarchistes faisaient. Enfin, c'est un autre problème. Non, mais c'est vrai que les Américains tout de même sont des gens optimistes, moraux, qui lisent l'Ancien Testament, qui ont la Bible sur la table.
Ils ont produit Orwell, ils ont produit Huxley, ils ont produit Justin, tous ces gens-là, c'est pas rien.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, non, mais moi, il y a une phrase que j'ai trouvée qui m'apparaît, je ne sais plus qui en est l'auteur, elle me paraît formidable par rapport justement à l'Amérique. C'est « Hollywood, c'est un monde régi par les Juifs qui vend de la théologie catholique à une Amérique protestante ». Et je trouve que c'est tout de même une chose assez, assez forte. Parce que le protestantisme, c'est pas l'image. L'image, c'est vraiment le catholicisme. Et cette idée, effectivement, à part Zanuck, tous les grands producteurs à Hollywood étaient juifs. Ils vendaient, effectivement, de la théologie catholique par l'imagerie, Cécile B. 2000 et autres, à une Amérique qui, à l'époque, on n'est pas chez Trump, était profondément protestante. Je trouve que c'est vertigineux comme
c'est très juste. Qui a fait cette
réflexion? Je ne sais pas, j'ai pas retrouvé l'auteur, mais elle est tout à fait frappante.
Mais qui nous rappelle que, au fond, on ne peut pas faire l'histoire du cinéma sans faire un peu d'histoire des religions. Comment vous avez parlé de Rosie? Moi, j'étais un ami de Rosie, si je puis dire.
Ben oui, il a préparé un film sur Che Guevara.
Il a préparé un film sur Che Guevara. Et puis son Salvatore Giuliano m'a toujours semblé un chef-d'œuvre. Est-ce que vous ne craignez pas un déclin du cinéma européen, italien en tout cas, c'est un fait acquis, peut-être français, avec des sujets de plus en plus intimes. Dans la guerre, si vous voulez, il y a à la fois l'épreuve de vérité, puisque la guerre dénude, hein, démasque, la guerre c'est vraiment la plongée dans le vrai, en un sens. Mais c'est aussi quelque chose de communautaire, de collectif. Vous ne craignez pas que l'intimisme des scénarios d'aujourd'hui nous éloigne de plus en plus, au fond, du phénomène guerrier?
Je pense que c'est pas seulement du phénomène guerrier, en général. C'est-à-dire que vous parliez du grand cinéma italien. Bon, c'est vrai qu'on peut parler de son déclin depuis pas mal d'années. Il reste encore quelques beaux films italiens. Il faut pas non plus tout rejeter.
Non, bien entendu.
Je pense à Bellocchio, par exemple. Ouais, on va voir un film de Bellocchio bientôt à Paris. Et Bellocchio est un homme qui, très différent de Francesco Rosi, mais qui tout de même associe toujours l'individu et le collectif. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est ça la grande force du cinéma américain aussi. C'est des cinémas qui s'interrogent sur la destinée humaine, avec des gens aux prises avec des problèmes moraux. Ce que les Roumains, par exemple, sont en train de reprendre dans leur cinéma, ou les Iraniens, je pense à Faradi, c'est-à-dire de montrer à la fois l'individu dans sa complexité, mm-hmm. avec son inquiétude morale, mm-hmm. avec les mm-hmm. problèmes de éthique, mm-hmm. et en même temps la société plus largement représentant l'état du pays, c'est la grande force du cinéma italien et du cinéma américain. Les Français, c'est vrai, sont plus dans un registre de l'intime ou de recherches formelles qui peuvent être passionnantes, mais qui n'arrivent pas à franchir la barrière du grand public pour essayer d'intéresser vraiment le grand public. C'est la grande force du cinéma américain, mais qu'il ne faut pas non plus surévaluer, parce que pourtant j'en ai été le grand défenseur, mais qui n'est pas non plus dans sa plus grande période. Il y a encore des très beaux films américain, mais on n'est pas dans les années 70 comme il y a eu une renaissance extraordinaire à Hollywood. Mais je pense que le problème du cinéma italien, qui a été un très grand cinéma, je vous parlais tout à l'heure de recherche d'identité, c'est ça qui a nourri le cinéma italien, nation jeune qui se pose des questions sur elle-même, c'est vrai qu'on ne trouve plus tellement de films de ce genre. Mais moi, je suis effectivement sensible, en tant que critique, à des films qui, on va bientôt voir par exemple un film de science-fiction américain qui s'appelle Premier Contact, qui est à la fois un film de science-fiction, je dis pas que c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, mais une véritable interrogation sur une guerre. Alors là, c'est l'invasion des aliens, des extraterrestres, mais c'est une réflexion politique, et aussi liée à un drame individuel d'une jeune femme qui a perdu sa fille, etc., et qui renaît dans son travail. Bon, je veux pas entrer dans le détail du film, mais on va voir par exemple le film de Munju, Baccalauréat, qui est un film roumain qui ressemble beaucoup au cinéma polonais d'il y a 30 ans de Kislev, ce cinéma de l'inquiétude existentielle sur un homme qui a des principes, qui est parti en exil sous Ceausescu, qui est revenu pour construire une Roumanie nouvelle et qui découvre que sa fille, pour avoir une bourse pour aller à Oxford, parce qu'il pense qu'à l'éducation à l'extérieur de la Roumanie, il faut qu'elle ait son baccalauréat. La fille a été traumatisée par une tentative de viol, etc. Eh bien, il essaye de marchander avec les gens pour les payer, pour qu'elle ait son... Et donc, toutes ses valeurs s'effondrent. Il fait tout le... Mais c'est passionnant, parce que c'est une réflexion sur l'Europe de l'Est, sur ce qui est devenu l'Europe de l'Est, avec des espoirs inouïs à la chute du communisme, et finalement se retrouver embourbé, soit dans le fascisme en Hongrie, soit dans la corruption en Roumanie, etc. Donc, c'est des films passionnants, et on ne retrouve pas cette jonction en France. On a des films sociaux, parfois très intéressants, sur des petites histoires qui sont très bien traitées, avec beaucoup de force, mais qui ne mettent jamais en relation avec le macrocosme. C'est microcosme et le macrocosme qui est passionnant dans le cinéma italien et américain.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Renoir aussi le faisait. Les grands films Renoir, Duvivier, étaient capables de ce genre de cinéma qui était très populaire à l'étranger.
Alors, Michel Simon, je vais un peu quitter notre sujet pour vous poser une question égoïste. Vous venez de dire microcosme et macrocosme. Pour moi, vous êtes un monument, notamment un monument de ma mémoire, moi, parce que moi j'ai toujours été, dans les années 60 et 70, il y avait positif d'un côté, les cahiers du cinéma de l'autre. J'ai envie de vous demander, puisque je profite de votre présence, qu'est-ce qui différenciait les deux? J'ai tout à coup, est-ce que positif, précisément, c'était pas le lien la liaison entre microcosme et macrocosme, c'est-à-dire dans une certaine façon entre l'individuel et le politique, au sens police, au sens large du mot. J'ai envie de vous dire, au fond, c'est quoi votre différence? Je sais qu'on fait toujours...
Mais il y a eu beaucoup de périodes. Donc, mais dans la grande époque de l'opposition frontale, Cahiers Positif, il faut dire que Positif, d'abord, c'était des cagneux lyonnais de gauche qui allaient partir pour la guerre d'Algérie et qui ont créé cette revue à Lyon en 52. Et puis ensuite, l'arrivée des surréalistes très importantes. Gérard Legrand, Robert Benayoun, Alain Joubert, etc., tous ces gens-là, Georges Goldfein, qui, comme les surréalistes le proclamaient, changeaient la vie, changeaient le monde. Hein, c'était Marx et Rimbaud, changer la vie, changer le monde.
Oui, c'est bien microcosme et macrocosme.
Exactement. Et donc, ça a nourri à la fois une pensée de gauche à l'origine, ensuite une pensée de gauche teintée fortement de surréalisme, qui faisait que ça a été la guerre d'Algérie, ça a été la défense de gens comme Alain Resnais, comme Georges Franju, comme Chris Marker, qui étaient dans le cinéma français en se réclamant de Jean Vigo et de Renoir et de Duvivier, du grand cinéma des années 30. Donc, à travers Prévert aussi et certains un film de Carnet, Le jour se lève, etc. Donc il y a eu toute cette tradition qui s'est opposée à une pensée plus à droite, Éric Rohmer, que je respecte beaucoup, mais qui était vraiment un monarchiste très très conservateur, et puis des gens comme François Truffaut, qui était l'ami de Rebattet, François Videuil, un collaborateur éhonté, etc. Donc il y avait tout, Godard aussi, qui ne s'en cachait pas, qui était un jeune droitier. La Parisienne, Jacques Laurent, etc. Donc la grande opposition, ça a été ça, qui entraînait évidemment des conflits qui paraissent aujourd'hui absurdes, c'est-à-dire Hitchcock contre Buñuel. Alors Positif n'aimait pas Hitchcock ou Rossellini parce que c'était la grâce, c'était le péché, c'était la confession, c'était l'aveu. Et Buñuel, c'était au contraire la lutte. Antonioni, c'était l'existentialisme. Alors donc on était pour Antonioni, pour Buñuel, pour Houston, pour Wells, alors que les Américains défendaient plus Hitchcock et un cinéma plus spiritualiste. Voilà. Et puis après, il y a eu le maoïsme que Positif a rejeté complètement et au risque de se faire traiter de réactionnaire, mais c'était la période Mao des Cahiers, et Positif est resté libertaire. Mai 68, c'était totalement l'esprit de Positif. Je parle de Cohn-Bendit, qui est pour moi l'homme politique que j'ai le plus suivi depuis 40 ans.
Merci Michel Simon d'avoir éclairci une interrogation que je traînais depuis longtemps, parce qu'au fond, on est toujours divisé, et j'étais toujours partagé entre les deux options, les deux tendances. Je ne dis pas entre le bien et le mal, hein, mais entre Positif et les Cahiers.
Ce n'était pas un mauvais choix, vous aviez de toute façon des deux côtés des...
Bonne
critique.
Je dois vous avouer être plutôt Positif que Cahier. Mais enfin bon, pas de confidence. Merci Michel Simon.
Merci Régis Debray de cette conversation.
Les discussions du soir, Michel Simon, Stéphane Desmonts et Laurence Genba. Avec Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.